Yannick Kremer, Michel Faure, bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Respectivement numéro 1 et numéro 2 sur la liste Arras à gauche, soutenue par la France Insoumise. Mmh. Et c'est tout.
Tout à fait, c'est déjà beaucoup.
LFI un petit peu mis de côté par les autres partis de gauche, classé à l'extrême gauche par le ministère de l'Intérieur, montré du doigt, violence, ambiguïté des propos. Comment vous vivez ce tourbillon politico-médiatique ?
Alors, comment est-ce qu'on le vit ? On le vit assez simplement, j'ai envie de dire, dans la mesure où ce n'est pas la première fois que finalement des campagnes de cabale ou de dénigrement sont lancées contre LFI. Très concrètement, nous on cherche au maximum à en faire abstraction, puisque nous, notre propos aujourd'hui, c'est de faire campagne pour l'élection municipale. Bien évidemment, les gens nous interpellent, nous questionnent, nous interrogent, parfois nous invectivent sur les thématiques qui sont un peu remontées au niveau national. Mais dans l'ensemble, très concrètement, dans 99% des cas, ça se passe toujours très très bien. Nous, on le vit bien. Encore une fois, dans une certaine mesure, on sait que quand on génère une forme de rejet ou en tout cas une forme de crispation de la part des élites et notamment des pouvoirs économiques, c'est que quelque part, on est sur la bonne voie. Donc j'ai envie de dire qu'on le vit sereinement pour le moment. En tout cas, Michel, tu me confirmes?
Oui, parce que nous, ce qu'on aime, c'est le porte-à-porte, principalement. Et donc là, on est quand même très proche des gens, c'est l'intérêt. C'est un moment, effectivement, où quand même, on est presque dans l'intime avec eux. On est devant chez eux. Parfois, on nous fait rentrer. Et c'est vrai que moi, j'ai jamais eu d'invective. Il y a eu des discussions, parfois, effectivement, sur le fond. Mais tout ce qu'on entend sur les médias, en tout cas, moi, je l'ai pas ressenti. On nous l'a pas ressorti comme ça. C'est toujours des questions, l'intérêt, pourquoi on fait ça, qu'est-ce qu'on leur apporte. Enfin, voilà, c'est toujours positif.
Ce qui est un petit peu nouveau quand même cette fois-ci, c'est qu'il y a pas mal de critiques qui viennent de la gauche, vos alliés, et puis en même temps, on sait que la gauche, elle a du mal à gagner. Elle ne peut pas gagner si elle n'est pas unie.
Alors, sur ce sujet, alors je vais peut-être revenir sur quelque chose qui a déjà été dit, mais cette désunion de la gauche, elle n'est pas notre fait, puisque au niveau local, en tout cas, on a travaillé à reconstituer ce qui fut auparavant le NFP, c'est-à-dire que nous, on a contacté et pris attache avec l'ensemble des forces de gauche à partir du mois d'avril 2025, et on a travaillé avec elles jusque septembre à mettre en place un accord qui puisse nous permettre de constituer une liste unique à gauche. Et très concrètement, c'est eux qui n'ont pas voulu de nous. Hein. Nous, on était prêts à faire des concessions, à dégager des consensus, à mettre de côté certaines des propositions sur lesquelles on était sans doute le plus attaché. Je pense au référendum d'initiative citoyenne. Et en fait, par des procédés que je vais pas, sur lesquels je vais pas revenir, parce qu'on a quand même malgré tout assez peu de temps, il nous a été donner une fin de non-recevoir à laquelle, je vous avoue, on ne s'attendait pas. Et donc, ceci étant acté, il nous a semblé nécessaire de nous rassembler et puis de porter nos propositions, parce qu'on estime qu'elles peuvent peser à gauche, qu'on a besoin aujourd'hui d'une gauche de combat, on a besoin d'une gauche radicale, et qu'il me semble que c'est nous qui l'incarnons aujourd'hui.
On parle de la constitution de votre liste. Comment ça s'est passé ? Est-ce qu'il n'y a que des personnes encartées chez LFI ? Est-ce qu'il y a aussi des membres d'associations, de simples citoyens ?
Oui, on a effectivement une liste qui est un rassemblement. D'abord, ça a été une volonté des militants, parce que comme on n'a pas pu effectivement faire l'union avec les autres gauches, tout de suite, on a eu besoin de se rassembler. Et ensuite, comme à chaque fois qu'on fait une liste, on l'ouvre. Et donc là, c'est effectivement, chacun démarche, on voit des associations, on rencontre des gens, on a parfois des gens qui nous disent « Ah, ça nous intéresserait », lors de porte-à-porte, par exemple. Donc voilà, et c'est une liste très ouverte.
Ouais, si je puis compléter, c'est une liste très plurielle dans la mesure où, effectivement, au départ, il y avait un noyau, une base un peu LFI, d'ailleurs complètement LFI, et puis elle s'est enrichie à la fois de syndicalistes, de personnes sur des assos, enfin voilà. Donc du coup, on l'a un peu, et puis de simples citoyens, tout simplement. Donc c'est un peu la manière dont on a souhaité aussi qu'elle puisse être faite, parce que très concrètement, on a bien aussi, on a un canevas, on a des idées au niveau des LFI, mais encore une fois, au niveau local, ce qui est toujours très intéressant, c'est de pouvoir l'enrichir des expériences, des pratiques, des vies différentes de chacun.
Alors, vos premières propositions concernent l'écologie et le social, deux thèmes que vous reliez. Mm-hmm. Faire des cantines des lieux 100% bio, rendre les bus gratuits, reprendre artistes en gestion publique, garantir le droit à l'eau, régie publique, premier mètre cube gratuit, fontaine, bain-douche. Est-ce que Arras, notre bonne vieille belle endormie, est-ce que Arras est prête pour ça?
Eh bien écoutez, nous, c'est le pari qu'on fait. Sinon, on n'aurait pas pris notre bâton de pèlerin et on n'irait pas au devant des gens. Très concrètement, encore une fois, c'est difficile de répondre à cette question puisque c'est les Arageoises et les Arageois qui ont la réponse. Donc on verra. Nous, ce qu'on essaye simplement de faire, c'est d'aller les voir, d'échanger sur ces sujets. Et encore une fois, hein, je vais prendre l'exemple de la question de la gratuité des transports. Elle fait systématiquement mouche auprès de toutes les personnes auprès de qui on la présente et on l'explique en fait. Très concrètement, on voit bien que, et là-dessus, en plus, c'est pas du tout une mesure qu'on va dire radicalement de gauche, puisque quand on regarde les territoires alentours, que ce soit le Douaisy, que ce soit dans le Lensois, que ce soit au niveau du Dunkerquois, la question du gratuité des transports, elle est mise en œuvre par les politiques locaux et qui sont pour la plupart très loin d'être des gauchistes avec un couteau entre les dents. Donc on peut s'imaginer que c'est quelque chose qu'on peut décliner et qui correspond aussi à une attente des populations. Aujourd'hui, on sait qu'il y a à peu près 50% de la population du Pas-de-Calais qui est dans un territoire dont les transports en commun sont gratuits. Je pense que sur ce sujet, au moins, la communauté urbaine, les Arageoises et les Arageois et l'ensemble des habitants de la communauté urbaine sont prêts pour franchir ce pas et passer en gratuité totale les transports en commun.
Le futur de l'abbaye Saint-Va, c'est un sujet important de cette campagne. Vous voulez stopper le projet immobilier de privatisation de l'abbaye. Est-ce que ce n'est pas déjà un peu trop tard?
On va peut-être préciser que Michel fait partie de l'association des Amis de l'abbaye.
Oui, oui, bien sûr. Alors c'est un projet, c'est vrai, depuis 2018. L'association s'est créée à ce moment-là. Les interventions qu'on a pu faire, parfois, ne sont pas toujours montrées de façon très, très, on va dire, explicite. Mais parfois, ce qu'on a pu faire, par exemple, notre dernière requête au tribunal administratif de Lille, qui remettait en cause une délibération, a fait que le maire a dû faire un pas de côté pour pouvoir passer, effectivement, sur une des décisions. Qui était pour nous le paiement des 450 000 euros
donc
par
nous,
la mairie.
Nous, c'est qui c'est? C'est votre liste ou c'est l'association dont vous parlez, c'est ça là?
Oui, c'est l'association.
D'accord.
Donc ce pas de côté, il est fait. C'est pour ça qu'on continuera de toute façon à lutter contre ce projet, pas à pas.
Et si je puis me permettre, il n'est jamais trop tard pour remettre en cause des projets qui nous semblent complètement aberrants et à contre-courant et de l'histoire de la ville et de l'histoire d'un projet de cet ordre tout court en fait.
Alors Yannick Kremer, lors de la réunion publique qui était organisée le 26 février dernier ici à Arras, vous avez dit Arras ne doit pas rester un ghetto pour riches. Vous souhaitez une reprise de la ville par les habitants sur la question du tourisme qui selon vous empiète sur la vie locale, les logements, la culture. Est-ce que vous pouvez développer ce point?
Alors oui bien sûr. Alors j'avais repris cette expression de ghetto pour riches parce qu'en gros ça, c'était une référence au concept des gated communities, qui est un concept anglo-saxon qui parle des communautés fermées, c'est-à-dire que globalement, les riches, quand les pauvres sont trop nombreux, les riches s'enferment entre eux. Et alors, il y a plusieurs choses là-dedans. Il y a la question des loyers en hypercentre, puisque l'idée, c'était aussi de travailler sur une régulation, puisque certaines villes ont fait le choix d'encadrer les loyers. Et concrètement, c'est une mesure qu'on estime nécessaire aujourd'hui pour le centre-ville d'Arras et peut-être pour d'autres quartiers sur lesquels il faudrait vraisemblablement qu'on réfléchisse. Parce que, encore une fois, hein, c'est pas quelque chose qui tombe comme ça du ciel. La question du logement, ça fait partie des problématiques majeures qui nous remontent du terrain. C'est-à-dire que les gens, systématiquement, nous interpellent sur, alors sur le coût de la vie en général, mais sur la question du coût des loyers et sur le coût de l'habitat d'une manière générale. Et sur ce sujet, la question de l'encadrement des loyers en hypercentre, ça nous semble être une nécessité qu'il faudrait qu'on couple aussi au fait que Aujourd'hui, la ville d'Arras est une ville très touristique. C'est sans doute une très bonne chose. Hein. Je ne vais pas dire que les touristes ne sont pas les bienvenus. Ceci étant, le développement du tourisme, on qualifie le tourisme Airbnb, aujourd'hui doit être, pour moi, en tout cas pour nous, doit être encadré de manière plus ferme. Encore une fois, c'est le choix qu'ont fait d'autres villes parce que si on y prend garde, en fait, on aura une forme de Disneyland d'une partie de la ville, et c'est ce sur quoi en fait nous on se base. C'est une ville qui est accueillante et qui accueille à bras ouverts le monde entier, mais qui en même temps doit pouvoir permettre à l'ensemble de ses habitants de pouvoir se loger dignement.
Et ça a aussi une influence sur la culture selon vous alors
Alors ça a une influence sur la culture, oui, indéniablement. Très concrètement, il nous semble que en fait, d'une manière générale, pour que les quartiers soient des quartiers vivants, et donc pour qu'il y ait une dynamique, une vie de quartier tout simplement, et donc une vie culturelle rattachée à ces quartiers, parce que l'idée, ce n'est pas notamment la politique culturelle d'une ville, ce n'est pas juste des événements d'ordre internationaux, il faut qu'il y en ait, ça c'est sûr, mais il faut qu'il y ait une forme d'équilibre avec une vie au niveau des quartiers. Et concrètement, quand on a des quartiers qui sont désertifiés parce que justement soit les loyers sont inaccessibles et donc du coup ne peuvent y prétendre que des gens qui ont des moyens conséquents ou des touristes qui viennent pour y passer une ou deux nuitées, ça a une incidence sur la vie du quartier.
Concernant la Grand Place, le Crédit Agricole s'en va, le Mégarama s'installe Val de Scarpe, la piétonnisation est proposée par d'autres listes. Est-ce que vous avez prévu quelque chose pour le futur de la Grand Place d'Arras ?
Encore une fois, nous, il nous semble que le sens de l'histoire, c'est que de retravailler, de redéfinir la place de la voiture. Encore une fois, et ça fait sens avec notre proposition de travailler sur les transports en commun, parce que la gratuité, c'est une chose, mais au-delà de cette question de la gratuité, il y a la question de la qualité du service qui doit être très grandement améliorée, de façon à ce qu'on puisse augmenter le cadençage, peut-être retravailler le réseau, de façon à ce que à pouvoir permettre, parce que très concrètement, chasser les voitures du centre-ville, c'est une noble et une belle idée, mais si derrière on ne permet pas aux gens de pouvoir venir et accéder pour pouvoir en profiter, ça n'a absolument aucun sens, et puis surtout, c'est contre-productif. Donc cette question de la piétonnisation, c'est vrai que nous on ne la fait pas apparaître dans notre programme de manière écrite noir sur blanc, parce que déjà, ça nous semble être une forme, je dirais, si je peux me permettre, Michel, une forme d'évidence, mais c'est une évidence qui s'accompagne aussi de tout un travail, encore une fois, de réappropriation de nos biens communs, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que ça passe par les transports, ça passe par l'alimentation, ça passe par le logement, et pour nous, ça nous semble être des conditions sine qua non et des priorités sur lesquelles il faut agir, et de surcroît, on peut de front mener la piétonnisation de la Grand Place, on y va sans difficulté aucune.
Allez-y Michel Faure.
Oui, j'aurais voulu effectivement dire, sur ces grands projets comme la piétonnisation de cette Grand Place, pour nous, il n'est pas envisageable de venir avec quelque chose clé en main. On doit faire participer parce qu'on le dit bien, il y a des commerces, c'est comment on vient vers les commerces. Si on ne peut plus venir avec sa voiture, pour certains, ça va être un problème. Donc tous ces grands projets qui vont devoir faire évoluer comme ça les choses, aussi bien la culture que cette place, vous voyez, c'est des choses différentes, mais on a besoin toujours de remettre autour de la table tous ceux qui vont pouvoir apporter et enrichir. Voilà.
On parle de sécurité, apparemment une préoccupation très importante pour nos concitoyens et concitoyennes. Vous traitez ce sujet aussi avec plusieurs points, plusieurs propositions concernant ce que vous appelez la sûreté et la tranquillité publique. Vous souhaitez développer une police municipale de proximité, humaine et présente, préférer la présence humaine à la vidéosurveillance, exiger de l'État le maintien ou l'augmentation des effectifs de police nationale. Vous ne proposez pas de désarmer la police municipale ?
Alors, effectivement, on ne propose pas de désarmer la police municipale parce que, encore une fois, c'est très parfois, enfin, il est complexe de défaire ce qui a été fait. Et nous, ce qui nous semble important, c'est peut-être déjà de mettre un frein à la vidéosurveillance massive qui se développe parce que on pense très concrètement que ce n'est pas la bonne solution au problème de tranquillité publique. Nous, ce qu'on souhaite, c'est encore une fois remettre de l'humain au cœur de la cité et pour cela, multiplier les dispositifs de caméras n'ont pour nous pas beaucoup de sens dans la mesure où qui se trouve derrière la caméra, que faisons-nous de ces images, comment on traite très clairement la question de la tranquillité publique. Et puis, il y a aussi le fait que il faut que les choses restent un peu à leur place. C'est-à-dire que pour nous, le plus important, c'est que la police nationale ait les moyens d'agir sur l'ensemble du territoire pour pouvoir mener les missions qui sont les siennes et qu'il n'y ait pas une forme d'espèce de délégation, en tout cas d'externalisation de la question de la sûreté entre les mains des collectivités. Après, sur la question du désarmement ou pas de la police, j'ai envie de répondre un peu comme Michel, que peut-être que c'est un sujet sur lequel il faudrait qu'on consulte les Arrajois. C'est la rageoie, tout simplement. On serait peut-être surpris des réponses qu'il nous aurait à nous apporter. Globalement, évidemment qu'à titre personnel, j'ai une position sur ce sujet, mais il nous semble encore une fois important qu'on puisse, encore une fois, en débattre très concrètement. Il y a quand même une dimension qui transverse l'ensemble de nos propositions, c'est de, encore une fois, de solliciter en permanence et de revivifier la question démocratique, parce que très souvent, en fait, on a le sentiment que la démocratie, elle s'arrête un peu le soir des élections et puis elle reprend 6 ans après quand il faut refaire de nouveaux campagnes, quoi. Et ça nous gêne un peu.
On va en reparler dans quelques instants, si vous voulez bien, de démocratie. Et juste avant, peut-être à nouveau sur la question de la sécurité, il y a une autre de vos propositions dont j'aimerais que vous parliez, c'est l'expérimentation du récépissé de contrôle d'identité. Pour lutter contre le contrôle au faciès,
oui.
Une manière de renforcer ce que vous appelez la confiance police-population.
Oui, bien sûr. Parce que on va se dire très tranquillement les choses, hein, mais c'est à peu près toujours les mêmes qui se font contrôler. Donc ce sont essentiellement les jeunes racisés qui se font contrôler. Donc là-dessus, il y a un lien avec la police qui est très clairement rompu. Donc n'ayons pas peur des mots, il faut qu'à un moment, il y ait la possibilité de reconstruire ce lien. Donc c'est pour ça que pour nous c'est important que de mettre des effectifs humains dans la rue pour que, un, on puisse avoir le contact direct avec la police. Enfin, je suis désolé, mais plutôt que de voir des caméras et d'être scruté. Et il faut aussi que derrière, il y ait des éléments qui laissent tangiblement penser qu'une fois qu'on a été contrôlé, parce que évidemment, on doit pouvoir être contrôlé dans certaines situations, on n'est pas non plus cette espèce de phénomène de... Alors j'allais dire de harcèlement, c'est peut-être un terme un peu fort, mais en tout cas sur lequel on a le sentiment qu'il y a une forme d'injustice qui se met en place et nous, ça nous semble être une manière de pouvoir, le résoudre, même si ce n'est pas la seule.
Alors justement, retour sur la démocratie locale. Vous voulez, vous l'aviez dit Michel Faure, associer les Arrajois, les Arrajoises à toutes les décisions importantes de la municipalité. Vous n'êtes pas satisfait de la concertation à la Frédéric Le Turc ?
Alors, bien non. On n'est pas, on n'est pas convaincus. On a quand même des gros projets sur Arras. Alors, il n'y a pas que l'abbaye Saint-Va, mais il y en a d'autres. Il y a par exemple l'organisation des circulations en ville. Les constructions, enfin les chantiers immobiliers qui fleurissent, qui tombent, qui restent en friche. Voilà. Donc, rien que le sujet du cinéma même. Pourtant, c'est un sujet, on va dire, privé. À la limite, le Mégarama décide d'aller s'installer ailleurs. Eh bien, on voit bien sur les commentaires des Arrajois que pour eux, c'est un sujet communal. Et tout le monde en discute pour dire « moi, je suis d'accord, moi, je suis pas d'accord ». Et donc, on n'est jamais questionné, soit par diverses possibilités. En tout cas, le maire, nous, on le voit bien, ne demande vraiment jamais et clairement d'informations auprès de la population. Ça veut dire qu'il peut faire des réunions de quartier et effectivement après dire « j'ai entendu, on m'en parlait », etc. Mais ça reste quand même que de l'oral, alors que nous, ce qu'on voudrait, c'est avoir des éléments comme le RIC qui font que clairement, honnêtement, on peut donner des résultats et on peut travailler là-dessus et avancer effectivement pour dire aux Arrageois, on est d'accord avec vous. Ou alors vous nous dites ça, ok, on va travailler par rapport à ça. Donc voilà, c'est resté dans le concret. Aujourd'hui, on est beaucoup dans la communication. On a quand même un maire qui est très très dans la communication et qui va effectivement continuer à être dans ce registre.
Dans votre programme, est-ce qu'il y a un ou deux points sur lesquels vous souhaiteriez insister rapidement, Yannick Rémer, Michel Faure?
Ah, il y en a énormément. Enfin, alors on va essayer de travailler de manière un peu intelligente. Nous, on souhaiterait notamment travailler sur la question de la lutte contre les violences sexistes, puisqu'on parlait un peu de la question de la sécurité et de la tranquillité publique. Nous, c'est des propositions qu'on a reprises de la part du collectif féministe, puisque le collectif féministe Arrageois a envoyé un questionnaire avec des propositions. Concrètement, on s'est dit que c'était peut-être elles les plus à même de clairement nous faire les propositions qui semblaient intéressantes. Donc cette idée de dédier un budget à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles sur le territoire public, ça fait partie de nos propositions. On souhaite travailler aussi également à faire du sport un pilier de santé publique, puisque l'idée c'est de travailler un sport au plan de santé communal. Et puis il y a aussi quelque chose sur lequel c'est pareil, encore une fois, on a été interpellés notamment par... par les mères célibataires, enfin en tout cas les on appelle ça comment les gens
qui les sont... familles monoparentales.
Voilà, les familles monoparentales. Mais en fait, j'adore ce terme de famille monoparentale. En fait, 80% des familles monoparentales sont des foyers qui sont gérés par des femmes. Et nous, en fait, on a une proposition à faire là-dessus, c'est qu'on souhaiterait que pour les familles monoparentales, en fait, soit mis en place une forme de carte communale qui permette en fait d'accéder un peu sur le même principe que les cartes pour les familles nombreuses, d'accéder à des tarifs préférentiels, que ce soit pour le sport, pour la culture, pour les loisirs. Enfin voilà, là-dessus, on pense qu'il y a quelque chose d'important à travailler parce que, encore une fois, c'est souvent, très souvent, dans leur immense majorité des femmes qui galèrent, qui ont du mal à gérer les deux bouts au quotidien, et même parfois encore plus dur. Donc ça nous semble être une mesure de justice sociale importante à pouvoir porter.
Dans votre programme sur la thématique santé, il est aussi question d'appuyer la création d'un CHU, centre hospitalier universitaire départemental. Oui. Est-ce que c'est réaliste ça ?
Soyons réalistes, exigeons l'impossible. Je ne sais pas si c'est possible. Moi, ce que je sais, c'est que c'est souhaitable. Et donc, il me semble que l'idée, c'est en tout cas... de semer des graines, d'engager la réflexion, de mettre les acteurs qui travaillent autour de ces sujets autour d'une table et puis de déterminer, encore une fois, en concertation avec l'ensemble des Arrageois, dans quelle mesure c'est possible, c'est faisable et c'est souhaitable en fait. Encore une fois, si on s'arrête à ce que, comme ça, de prime abord, on s'imagine pouvoir ou ne pas pouvoir faire, on ne s'autorise pas grand-chose en vérité. Pour moi, c'est important qu'on puisse rendre possible ce qui peut paraître impossible.
Dernière question, Yannick Rémer, Michel Faure, vous êtes l'une des rares listes à parler de sujets internationaux.
Oui,
vous proposez que la mairie d'Arras dénonce les accords de libre-échange, réaffirme son attachement au respect du droit international, témoigne d'un soutien au peuple palestinien. Est-ce qu'une mairie doit faire ça?
Oui.
À votre avis.
Oui, bien sûr. Et pourquoi une mairie est aussi l'expression de ses citoyens et de la volonté politique qu'ils incarnent, en tout cas en désignant leurs représentants. Et il me semble alors nécessaire de faire usage de toutes les voies, de tous les recours possibles pour exprimer à la fois notre soutien alors au peuple palestinien, mais pas qu'à lui, très concrètement, parce que ça fait partie aussi de notre dignité que de devoir... systématiquement dénoncer les injustices et les crimes qui sont commis partout où ils ont lieu. Enfin, et il me semble que à notre échelle, même si ça peut apparaître de manière un peu modeste, mais cela doit être fait en fait. Hein. Si on ne le fait pas, qui serions-nous alors qu'aujourd'hui on le sait, tout le monde le, plus personne ne peut nier les massacres qui sont commis. Et donc, pour nous, ça semble être une forme d'évidence. Et puis sur les questions d'accords de libre-échange, de devoir les dénoncer, c'est aussi une manière pour nous d'exprimer notre soutien aux agriculteurs français qui clairement vont souffrir et pâtir très de ces accords de libre-échange. Donc à notre échelle, à notre niveau, c'est aussi nous engager, nous contraindre à ce qu'on ne fasse pas rentrer dans les cantines bio des produits qui viennent du Mercosur, mais uniquement des produits issus de l'agriculture locale. Enfin voilà, il y a aussi un certain nombre de déclinaisons qui sont possibles, qui sans doute sont autant de gouttes d'eau, mais bon, encore une fois, c'est à nous aussi de faire notre part.
Un dernier mot, Michel Faure, rapidement.
Oui, on se souvient de la mobilisation de la mairie pour l'Ukraine, et les Arrajois avaient répondu très largement, positivement. Donc on voit bien qu'une mairie a et doit avoir ce genre de position.